Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Solway et Coagula.
Magic is political, magic is social, magic is cultural, magic is pretty much everything. This is the alchemical formula of Solway et Coagula.
Mars 1941, le sérum du super soldat est injecté à un jeune volontaire inapte au service nommé Steve Rogers. L'Europe est dévastée par les armées de l'Axe. En décembre, la guerre gagne le Pacifique après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Au cœur du conflit, Captain America devient un symbole de l'effort de guerre pour l'armée américaine. Il combat les nazis et Hydra, mais s'abîme en mer en avril 1945, un mois avant la capitulation de l'Allemagne. Comme tout le monde, nous avons appris hier, catastrophé, la disparition de Stan Lee. Nous avons donc voulu rendre hommage à cet homme qui a contribué à façonner nos imaginaires dans ce quatrième numéro de Solway et Coagula. Alors nous nous sommes demandé ce que son art, le comics de super-héros, leur avait fait, à nos imaginaires et à notre perception du monde.
Puis nous sommes aperçus, en reparcourant l'œuvre de Stan Lee tout au long de ce XXe siècle, qu'il permettait de penser, en quelque sorte, l'impensable, l'insaisissable, ce qui n'était pas à hauteur d'homme, en écrivant, en créant des super-héros, comme autant de personnages conceptuels, de problèmes métaphysiques ou de physique très complexes, qu'un enfant, premier destinataire de ces comics dans les années 50-60, n'était absolument pas capable de saisir, et que pourtant Stan Lee a rendu perceptible dans son œuvre.
Et on a identifié, là, comme ça, en discutant, quelques impensables que le comics de super-héros inauguré par Stan Lee et toutes ses équipes ont permis de penser. Peut-être que le premier d'entre eux, du coup, ce serait l'impensable de l'histoire.
Oui, parce que déjà, Stan Lee, personnellement, comme beaucoup d'auteurs de comics, Stan Lee vient d'une famille d'immigrés juifs roumains, je crois. Donc déjà qui sont des gens très en lien avec l'histoire du XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale et des questions de cet ordre-là, qui a fui aux États-Unis, une famille qui a fui aux États-Unis. Et ça va être un travail qu'on va retrouver énormément dans l'œuvre de Stan Lee. Enfin, la Seconde Guerre mondiale déjà avec Captain America. Ensuite, on va retrouver Magneto, qui est un personnage central par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui est en fait un fils d'immigré juif lui aussi. Et puis toutes les questions avec les expérimentations d'Hydra, le fait que Magneto aussi soit révélé par un genre de Mengele.
Oui, parce qu'en fait, il a été prisonnier à Auschwitz, et c'est vraiment par le mal, par la douleur, par la souffrance de l'histoire qui s'est imprimée dans son corps que se révèle sa mutation.
Et ça va marquer en quelque sorte un peu son pouvoir et sa manière en fait d'utiliser son pouvoir en fait. C'est l'histoire, c'est son rapport à l'histoire, c'est son...
Et puis son rapport aux hommes aussi, enfin son espèce, ouais. Il croit profondément en une banalité du mal, en une histoire qui est vouée à se répéter, en des oppressions, des massacres, des crimes perpétrés par les hommes qui sont destinés nécessairement à se répéter. Enfin, il croit en une espèce de fatalité de l'histoire, alors qu'à l'inverse, on a les X-Men qui sont plutôt du côté d'un espoir pour cette histoire-là.
Le 12 avril 1961, en effectuant un vol de presque 2 heures autour de l'orbite terrestre, Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. Le 25 mai, Kennedy emboîte le pas au bloc soviétique en annonçant la création du programme Apollo et le début de la conquête spatiale. En pleine course aux étoiles, en novembre de la même année, les futurs 4 fantastiques, au cours d'une mission vers les abysses d'en haut, sont atteints par une vague de rayons cosmiques qui modifie leur structure génétique au gré des vents solaires. I'll always be true. So please.
puis par la suite, les super-héros vont se retrouver impliqués dans plus ou moins tous les conflits du XXe siècle. Par exemple, dans la première version d'Iron Man, il se retrouve prisonnier de guerre au Vietnam, puis ensuite, pendant les guerres du Golfe, il sera prisonnier de guerre en Afghanistan, etc. Enfin, à chaque fois, les super-héros sont mobilisés sur des conflits historiques. Ils sont des agents de l'histoire, et y compris pendant la guerre froide.
Oui, parce qu'ils vivent en même temps que les scénaristes et les dessinateurs aussi, la guerre froide, la guerre ensuite, d'autres conflits sur lesquels ils vont être mobilisés, comme le Vietnam. C'est des moments de la vie, pas seulement de l'histoire, mais aussi de la vie de l'Américain qu'est Stan Lee au moment où il écrit, en fait. Et pour lui, c'est nécessaire de conjuguer ça au rôle du héros, en fait, toujours dans cette idée de mettre le conflit à hauteur d'homme, en fait, et de pouvoir le rendre saisissable par des figures qui vont vivre ce conflit à différents endroits et qui vont en faire un compte-rendu. Un compte-rendu qui sera d'ailleurs, à mesure qu'on évolue dans le temps, parce que quand même, avec Captain America, le premier, on est quand même sur quelque chose qui est très quand même propagandesque, quand même. Et petit à petit, quand même, il va y avoir plus... un certain point de vue qui sera toujours évidemment chargé d'une certaine idéologie, hein, mais quand même on n'est plus Captain America à la couverture où il frappe Hitler.
Mais d'un côté, cet aspect un peu manichéen permet peut-être de rendre une histoire insupportable plus supportable. C'est-à-dire Captain America, c'est aussi une manière de créer une espèce de protecteur des peuples, de défenseur, certes qui incarne une Amérique rêvée comme une espèce de lieu qui pourrait accueillir tous les damnés de la Terre, mais malgré tout, toutes ces figures, en particulier les X-Men qui sont ces figures de rejetés de la société, qui sont sans cesse opprimées, voire parfois déportées, ça va être des figures qui aident à rendre le monde compréhensible, dans le sens où on arrive à le saisir, à le ressaisir et à se le rendre supportable.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Mai 1962. Alors que Marilyn Monroe chante son Happy Birthday to You pour le président Kennedy lors de la réception du Madison Square Garden, Bruce Banner est trahi par un membre du laboratoire militaire dans le désert du Nouveau-Mexique où il dirige une équipe de recherche sur la bombe Gamma en pleine course à l'armement. L'homme, un espion soviétique, déclenche l'explosion alors que le docteur Banner est toujours dans la zone de test. Son ADN est irrémédiablement altéré, il devient Hulk. 6 mois plus tard, la crise des missiles cubains éclate.
Puis au-delà de la question du passé aussi, tant qu'on est dans des questions de temps, le travail de Stan Lee permet aussi de penser une forme d'avenir, une forme d'espoir face à l'avenir, ou en tout cas de point de vue face à ce qui va se passer, notamment tout au long du XXe siècle, et de tout le futur qu'a imaginé le XXe siècle.
C'est-à-dire que c'est un avenir qui est particulièrement incertain, avec les problématiques de la bombe, la peur qui plane d'une troisième guerre mondiale, on ne sait pas trop... où va l'humanité à ce moment-là, toutes ces problématiques qui se développent dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale avec la crise des missiles qui est représentée dans de nombreuses BD et qui met en récit des problématiques et des angoisses qui peut-être touchent les Américains et même peut-être les enfants américains qui entendent à travers le discours des adultes ces angoisses et qui ne parviennent pas, encore une fois, à les intégrer à leur propre univers. Enfin, on peut penser aux X-Men qui se définissent eux-mêmes comme les enfants de l'atome, qui sont peut-être un peu les porteurs de cette malédiction, bénédiction du progrès qui se fait jour en eux et qui crée du conflit en eux. Et puis toutes les problématiques de la guerre froide, le savant soviétique qui trahit, qui est là, qui est un espion, enfin toutes ces problématiques-là.
puis les questions aussi petit à petit qui vont venir de génétique, en fait, de modification génétique du corps, qui est aussi présente dans les X-Men, hein, parce que c'est ça, les X-Men, c'est des humains qui ont évolué plus en avant. Et du coup, toutes ces questions-là qu'on va voir aussi dans la figure de Logan, de Wolverine, et qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que, enfin, ça faisait très, enfin, nous deux, ça nous faisait très peur quand on était petits, les scènes de manipulation génétique ou les choses comme ça, parce qu'en fait, il y a une forme de peur qui est encore présente aujourd'hui, qui devait être présente à l'époque où aujourd'hui on parle beaucoup de transhumanisme et de manipulation du corps humain, qui rend aussi la manipulation dans toute sa frayeur au niveau de l'enfant, en fait.
Et puis toute cette peur d'une menace venue du ciel, avec tous ces anti-héros, ces super-vilains type Thanos, Galactus, même Fatalis, d'une certaine manière, qui sont dans des perspectives de meurtre de masse catastrophiques et d'holocauste, souvent à traduction nucléaire, en tout cas.
Oui, et puis, à rajouter cette question du nucléaire qui est quand même présente dans pas mal de personnages. C'est-à-dire qu'encore une fois, une question de transhumanisme. L'homme modifié par la science, l'homme modifié par toutes les découvertes, avec Hulk, avec Spider-Man et des personnages comme ça qui incarnent aussi ces questions-là, quoi.
Bah, c'est Gunther Anders qui dit dans ses écrits sur la bombe, justement, que le monde de demain sera invisible. Et c'est vraiment cet impensable que Stan Lee et toutes les œuvres de Marvel tentent de rendre pensable à travers ces personnages conceptuels, encore une fois. There's a moon out tonight. Whoa, whoa, whoa. Let's go strolling.
En 1962, trois physiciens obtiennent le prix Nobel pour avoir découvert et visualisé la structure de l'ADN pour la première fois. En août de la même année, une araignée, née des premières manipulations génétiques de la fameuse double hélice, mord le jeune Peter Parker. Quelques jours après, on commence à voir Spider-Man escalader les buildings du Queens. Les questions d'espace. Stan Lee s'est emparé d'espaces très marqués, notamment la ville de New York, en fait. Et ce qui est très intéressant dans sa manière de penser New York, c'est qu'elle se rattache toujours à des fragments, à des morceaux qui sont dévolus à certains héros et qui permet de rendre une ville-monde qui est difficile à totaliser en esprit, la rendre beaucoup plus prégnante et pragmatique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a Greenwich Village qui est le lieu où opère, on va dire, Doctor Strange, le Queens, c'est Spider-Man, Hell's Kitchen, c'est Daredevil, Brooklyn, c'est Captain America, la tour Stark, par exemple, se trouve à Long Island, et puis la tour des 4 Fantastiques, le Baxter Building, c'est vraiment le truc typique de Manhattan, de ce quartier, avec des gratte-ciels et tout. Et du coup, tous ces personnages permettent de rendre cette ville de New York, qui est la ville vraiment typique de l'immigration américaine, cet endroit où les gens essaient de trouver du travail, où il y a de fortes disparités sociales, une ville qui paraît s'étaler à perte de vue, ou même une ville debout qui est impossible à comprendre, là encore, ça la rend peut-être plus familière et plus peut-être même limite rassurante d'une certaine manière, on pourrait se dire. De 1961 à 1966, la France, comme toutes les grandes puissances, réalise plusieurs essais nucléaires dans le Sahara. Le 1er mai 1962, lors d'un test souterrain, un nuage radioactif s'échappe de la galerie de tir, exposant une centaine de personnes à la puissance de l'atome. Quelques mois plus tard, en septembre, un groupe de personnes se présentant comme les enfants de l'atome, les X-Men, apparaissent aux États-Unis.
It still made me blue.
that time.
Bah, elle éloigne aussi parce que l'anti, enfin, l'anti-réseau à opposer à ces réseaux-là de super-héros dans les quartiers, ce serait le réseau voilà, de la mafia, des gangsters qui sont très très présentes au XXe siècle, qui ont sans doute été très présentes pour des jeunes enfants d'immigrés type Stan Lee ou des choses comme ça, et qui ont pu être aux premières loges en fait, pour voir ce genre de choses dans des quartiers défavorisés. Et Ce grand banditisme, en fait, il est un peu nié aussi par le réseau que propose Stan Lee dans son travail. Parce que c'est une question aussi de proposer d'autres modèles, en fait, aux enfants. On va proposer d'autres modèles que le... Parce qu'on a... Enfin, il y a toute une culture voilà, qui a aussi proposé les gangsters en tant que modèle. Enfin, on pensera à Scarface ou à d'autres films qui placent vraiment le grand banditisme en termes de modèle. Et du coup, Stan Lee aussi arrive, bon, peut-être parfois avec des valeurs un peu, ce qu'on appellera un peu des valeurs bateaux, mais c'est aussi à l'époque, quoi. Et c'est voilà, essayer de placer de nouveaux modèles aussi pour la jeunesse et proposer aussi une autre cartographie de New York qui ne serait pas celle de la pègre, quoi. Mars 1963, trois mois après les premières victoires Viet Cong à Hap Bac, le playboy milliardaire Tony Stark, héritier de l'entreprise d'armement Stark Industries, est enlevé par l'armée populaire vietnamienne. Pour s'enfuir, il crée la première armure de ce qui deviendra Iron Man. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a heart, and it's a heart, and it's a heart, and it's a heart, and it's a heartbreak.
Cette ville qui est rendue impensable parce que parfois hostile, ça rejoint aussi un autre impensable qu'on a pu identifier, qui est celui... c'est impensable un peu politique qui est une époque de, parce que le XXe siècle c'est une époque de bouleversement politique, d'affrontement, il y a toutes les problématiques autour des droits civiques avec énormément d'émeutes raciales réprimées parfois dans le sang, et du coup les super-héros vont être là pour aussi prendre en charge ces questions politiques et les traduire souvent mythiques.
L'exemple le plus parlant, c'est celui de Black Panther et de son état fictif, le Wakanda, qui représente bien cette question de l'espace politique. Enfin, c'est vraiment un espace politisé, quoi. Surtout avec la question du vibranium, où ça devient un espace exploité, quoi, comme un état africain exploité pour ses ressources par des colonisateurs.
Et puis là, un état africain qui appartiendrait à une forme d'afrofuturisme utopiste, qui rejoindrait toutes ces idées qui étaient très présentes à l'époque dans les mouvements panafricains, par exemple. C'est-à-dire cette idée selon laquelle il faudrait que les peuples opprimés noirs se rejoignent dans une grande nation africaine qui réussira à s'émanciper, en fait, une espèce de regroupement, finalement, des opprimés. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. Juillet 1963, le docteur Stephen Strange, mutilé dans un accident de voiture, entame un voyage désespéré dans l'Himalaya en quête d'un savoir ancestral. En décembre, Walt Disney sort son Merlin l'Enchanteur.
Toujours dans cette idée des droits civiques, ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier le rapport entre Magneto et le professeur Xavier, en fait, qui sont tous les deux inspirés officiellement de Martin Luther King et de Malcolm X, et qui aussi sont dans cette lutte de comment penser le problème, comment penser l'émancipation des droits, comment penser l'émancipation des mutants dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut une action, violente, radicale, qui nie aussi en quelque sorte
la possibilité d'une cohabitation, oui. Finalement, parce que Magneto, c'est vraiment ce militant radical des droits des mutants et qui estime que dans une perspective darwinienne, enfin, qui estime que finalement il n'y a pas de place pour tout le monde et que l'évolution veut que les mutants prennent le pas sur les autres et que les autres, s'ils s'en aperçoivent, vont essayer de les massacrer, de les mettre dans des camps de concentration et tout ça. Et du coup, il est dans un rapport de eux ou nous qui s'explique aussi par son histoire à lui. Et c'est exactement comme Malcolm X. Malcolm X, il pense qu'il a vécu une histoire beaucoup plus violente peut-être que Martin Luther King, et il pense qu'il faut que ce soit par l'action directe quelque chose de beaucoup plus violent, là où Martin Luther King va organiser des manifestations beaucoup plus pacifistes.
À la manière de Charles Xavier, en fait, le professeur, qui réunit autour de lui des équipes de jeunes, des mutants, qui crée un institut dédié à ça et qui va... plutôt que de les apprendre à se battre, va les apprendre à aussi, enfin, il les apprend à se battre, mais à une idée de défense, dans une idée de cohabitation, quoi. Vraiment dans une idée de vivre avec les humains et pas les dominer ou être dominé.
Et puis en plus, dans une idée selon laquelle il faut s'intégrer à la politique, puisqu'il y a le Fauve, qui est donc le grand ami de Xavier, qui est aussi un scientifique, mais qui va se lancer en politique pour essayer de... faire évoluer les droits des mutants et leur reconnaissance par les voies démocratiques, du contrat social. Là où Magneto, il estime que ça, ce n'est absolument pas possible, il va se mettre dans une logique qui est celle de la guérilla, on pourrait dire, d'une certaine manière.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
28 août 1963. Martin Luther King prononce son discours I have a dream lors d'une marche pour les droits civiques. Malcolm X, lui, se montre critique et prône une action plus radicale. En septembre de la même année, à l'heure où les mutants peinent à obtenir une égalité avec les humains, le professeur Charles Xavier et Magneto, leader des deux principales communautés de mutants, s'opposent sur le mode de contestation à adopter. Et puis c'est une problématique aussi, la question des moyens, la question de la mise en œuvre d'une rébellion, c'est une question qui va traverser aussi tous les mouvements indépendantistes, de comment est-ce que la guérilla ou la guérilla forte pour s'opposer au système ou essayer de s'intégrer au système pour le modifier, pour en être partie prenante et arriver à lui donner une face plus humaine.
You look like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
En novembre 1963, Kennedy meurt assassiné en plein jour à Dallas sur Elm Street. Événement encore aujourd'hui dans l'angle mort de la justice américaine, quelques mois plus tôt. Avocat, las d'une justice moins aveugle que corrompue, Matthew Murdock endosse le costume de Daredevil.
You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
Au-delà de la philosophie politique, puisque d'une certaine manière, du coup, les super-héros peuvent permettre de penser la philosophie politique, il y a toute une philosophie donc morale, on l'a dit, d'une certaine manière, c'est-à-dire le super-héros comme exemple mythique pour les jeunes générations et tout ça, qui parfois peut s'avérer un petit peu moralisante, on va pas se le cacher, qui transmet des valeurs quand même plutôt dominantes. Mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi tout ce que ça peut transmettre en termes de philosophie presque métaphysique et même en termes de notions de physique assez complexes à comprendre, mais qui sont explicitées par les moyens de la bande dessinée, par cet art de masse en fait que devient le comics à ce moment-là.
Ouais, bah c'est surtout les personnages, enfin les personnages qui vont être le plus intéressants de ce point de vue-là, c'est ceux qui vont un peu magouiller avec le principe de réalité, qui vont avoir des pouvoirs qui vraiment ont une incidence sur notre perception à nous en fait du réel. Enfin, on peut penser à bah déjà au Doctor Strange pour l'usage de la magie évidemment qui reconfigure, mais après on peut imaginer aussi Vif Argent qui est un peu traité dans le comics, voilà, comme ce personnage ultra rapide qui il y a une vraie recherche du mouvement en fait à travers les personnages qui vont rapidement, et Vif Argent est pas différent de ça. C'est que on va essayer de représenter un mouvement qui est moins figé que pour les autres personnages, et essayer de voilà comme les débuts du cinéma, essayer de représenter vraiment le personnage en mouvement avec une suite de dessins, mais
et puis un personnage qui permet de faire comprendre aux gens des notions qui sont toutes nouvelles au XXe siècle, c'est-à-dire la relativité générale. Enfin, on parlait de l'atome tout à l'heure, mais il y a toutes ces questions de qu'est-ce que c'est la vitesse de la lumière, qu'est-ce que ça implique en termes de temps. Et tous ces super-héros, en fait, vont toujours avoir à traiter avec des problématiques dans l'espace, des problématiques de vitesse grâce à leurs super-pouvoirs, etc.
Mars 1964, l'un des plus puissants séismes jamais enregistrés sur Terre, avec une magnitude 9,2 sur l'échelle de Richter, a lieu en Alaska. Quelques jours plus tard, l'avion de Captain America est découvert au pôle Nord, pris dans la calotte glaciaire. Le corps du héros de la Seconde Guerre mondiale est congelé, et les médecins parviennent à le ramener à la vie. Ce qui est souvent intéressant avec les personnages de Stan Lee, c'est que c'est des scientifiques. Donc en fait, c'est des gens qui sont censés avoir une certaine perception du réel qui est rationnelle et qui sont confrontés à de nouvelles formes, à de nouvelles perceptions du monde. Et en fait, ils sont remis au niveau du néophyte en science ou de l'enfant qui découvre de nouvelles choses et qui a besoin de comprendre lui aussi et qui du coup va les exposer comme ça. Il y en a les quatre fantastiques du coup, ils sont exposés à leurs pouvoirs en fait, alors que ce sont des scientifiques reconnus. Ant-Man aussi avec sa combinaison, voilà, qui est capable de changer de taille et de se réduire à la taille de l'atome. Et du coup, c'est vraiment un nouveau paradigme scientifique qui se crée pour avancer dans la science, avancer avec le progrès et essayer de rendre populaire en fait les nouvelles croyances. En fait, c'est ça aussi que fait le comics de super-héros, c'est que, et de science-fiction aussi en général, c'est que il va mettre à porter ces questions-là, ces nouvelles questions qui sont dans le futur mais qui sont finalement aussi bientôt parmi nous.
Juillet 1966. Émeute raciale de Cleveland, Ohio. Le gouverneur fait intervenir la garde nationale, 4 personnes sont assassinées, 50 sont blessées et 275 sont arrêtées. Le roi du Wakanda revêt le costume ancestral de la panthère noire pour combattre l'oppression et devient Black Panther. En octobre, le mouvement révolutionnaire de lutte pour les droits civiques du même nom est créé.
Brown baby, brown baby, as you stand up tall and proud, and I want you to speak up clear and loud.
c'est peut-être dans cette dimension fondamentalement populaire que le comics de super-héros est intéressant et qu'il rejoint d'une certaine manière le cinéma qui est quand même aussi le grand art populaire du XXe siècle, parce qu'il permet de rendre intelligible un monde qui ne l'est plus, qui a été brisé, enfin en tout cas qui se rend difficile d'accès avec un rapport très complexe, surtout à partir des troubles de la Seconde Guerre mondiale, des angoisses liées à la bombe. Et c'est finalement, on pourrait presque appliquer au travail de Stan Lee, enfin tout ce qu'il a fait pour l'expansion du comics de super-héros, on pourrait appliquer ce pouvoir que prête Gilles Deleuze au cinéma, dans l'image-temps, c'est cette capacité à recréer de la croyance, à recréer du lien là où quelque chose a été fondamentalement brisé, en fait.
C'est, oui, c'est tout à fait... En fait, c'est bête, hein, mais on peut y penser en pensant à quelque chose de tout à fait trivial et prosaïque. C'est juste que ce sont des trucs qui paraissent de manière régulière, qui en fait sont des rendez-vous, qui vont être tout le temps mobilisés une fois par semaine ou par mois. Enfin, c'est très régulier. Et c'est aussi une manière pour ces gens-là de retrouver toujours un espace qui est capable d'être appréhendé, qui chaque semaine se délivre un peu plus à eux et qui est toujours un peu plus exposé et qui, du coup, oui, peut rétablir une croyance au monde dans cette optique-là. Avril 1975, fin de la guerre du Vietnam. Logan est démobilisé. Un mois plus tard, il rejoint le Xavier Institute for Gifted Youngsters, sous le nom de Wolverine, en compagnie de trois autres nouveaux mutants. Tornade, recruté au retour de son voyage initiatique à travers le Sahara, le russe Colossus et l'allemand Diablo.
Et c'est vraiment, là où il me semble que c'est important d'utiliser le terme de mythologie. C'est vraiment une mythologie du XXe siècle qui permet de comprendre ce siècle qui est vraiment, par définition, incompréhensible et qui ne se laisse pas saisir. Et par ce réenchantement, cette mythification en fait, des grands événements, cette mythification de concepts ou de d'événements scientifiques, etc., et bien en fait, finalement, le super-héros réussit à rétablir du lien, à redonner à des exclus, alors des exclus par leur âge, aux enfants, mais aussi aux masses, entre guillemets, mais sans aucun jugement ou sans aucune dimension péjorative, ça permet de redonner une prise sur le monde, en fait, à travers ces personnages et tout ce panthéon qu'invente Stan Lee et qu'ont inventé... qu'ont inventé les créateurs de super-héros depuis. 1978. Le surfeur d'argent sauve la Terre de Galactus dans le dernier comics scénarisé par Stan Lee pour Marvel.
Away. We can be Swing.